Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de Diabète 66. Le podcast de Diabète 66, c'est le podcast hebdomadaire qui décrypte avec vous l'actualité sur le diabète. Ce podcast vous est présenté par l'équipe médicale du service endocrinologie du centre hospitalier de Perpignan, dirigé par le docteur Muriel Bénichou, accompagné par les docteurs Amina Radaoui, docteur Nelly Montignera et docteur Céline Hyde.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le docteur Nelly Mortignera. Je vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle émission qui a pour thème « Comment obtenir un bon équilibre glycémique en 2021 ?» Nous avons donc reçu, vous connaissez maintenant le principe, les questions que vous nous envoyez durant la semaine. Le jeudi, nous les récoltons et nous tentons d'y répondre légèrement à l'avance pour qu'il y ait une amorce de discussion et après nous répondons en live à ceux qui nous posent des questions en direct. Donc, au cours de cette semaine, nous avons reçu 7 questions qui avaient à peu près trait à la thématique et sur cette question, Monique, Samira, Sandra et Driss ont posé des questions sur à peu près la généralité de ce qui est le thème d'aujourd'hui. Comment obtenir un bon équilibre glycémique chez le patient diabétique de type 2 en 2021? Pour cela, on revient toujours sur des référentiels qu'on a l'habitude de citer. C'est dans un premier temps, si on suit ce qu'on appelle les recommandations de bonne pratique, de mettre en place une activité physique régulière d'au moins 30 minutes par jour ou 45 minutes par semaine en minimum. C'est une activité qu'on doit faire de manière régulière. C'est une activité qui peut être une activité d'endurance, c'est-à-dire la natation, la marche nordique, le vélo d'appartement, le vélo dans un cadre plaisir. Une activité qu'on fait dans une dimension plaisir. C'est une activité qui peut être individuelle aussi dans un sport, la boxe, le judo, le thaï, et une activité de sport collectif, le hand, le basket, le foot. Et ensuite, il faut de temps en temps mettre ce qu'on appelle des activités de vitesse dans des activités d'endurance. On entrecoupe pour les coureurs, par exemple, les temps de course par des temps de course de vitesse. Voilà, on fait ce qu'on appelle le fractionnement. On pratique des sports un peu particulier, mais qu'on peut aimer, pour lesquels on veut découvrir ce que c'est, l'escalade, la voltige, l'ULM, tout ce qui peut être plaisir et en même temps activité physique. Donc en dehors de l'activité physique qui est le primum movens, on va aller sur l'alimentation équilibrée, où toute catégorie d'aliments doivent être représentées dans l'assiette, bien diversifier son alimentation, faire attention à limiter en quantité les sucres lents, c'est-à-dire les féculents, proscrire au maximum ce qu'on appelle les sucres d'absorption rapide, donc tout ce qui est les sucreries et les sucres cachés. Les sucres cachés, ça peut être les viennoiseries, ça peut être tous les produits écrits sans sucre ajouté, mais qui sont riches en polyol. Et les aliments à index glucidique élevé, les aliments hypercaloriques, ceux qui sont trop riches. Il faut être à l'écoute de sa faim, il faut prendre le temps de manger, au moins une vingtaine de minutes au minimum par repas, il faut bien mâcher ses aliments, ne pas grignoter, donc ne pas manger entre les repas, et essayer de ne pas développer ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire d'avoir une relation particulière à l'aliment. Ensuite, on va aller sur le traitement. Et la place du traitement, elle est importante. On va respecter les recommandations de bonne pratique avec un minimum de bon sens. Il faut respecter les recommandations, mais il faut garder le bon sens. Il y a plusieurs catégories de médicaments et ces catégories de médicaments vont s'intermêler. Nous allons les associer de manière stratégique et réfléchie. Et pour citer les catégories, on a les biguanides et particulièrement la metformine, qu'on va utiliser. Puis, les sulfamides hypoglycémiants, ce sont des mots qu'on a l'habitude d'utiliser ici, mais je vous rappelle que c'est le glimépiride, le glyclazide, le répaglinide qu'on va utiliser chez les patients qui ont des problèmes rénaux, même des problèmes rénaux sévères jusqu'à la dialyse. Les gliptines, c'est une nouvelle classe, enfin, elle ne devient plus une nouvelle puisque ça fait maintenant un moment qu'elle est sur le marché. C'est la sitagliptine, vulgairement appelée Januvia ou Xelevia, la vildagliptine avec le Galvus, la saxagliptine avec Onglyza et leur combinaison avec la metformine qui sont le Janumet, le Velmessia, le Créas et le Comboglyse. Les analogues du GLP-1, ces hormones que l'on injecte, que l'on s'injecte soit de manière journalière, soit de manière hebdomadaire, qui sont aussi arrivées il y a bien plus d'une quinzaine d'années maintenant parmi le panel de choix de médicaments pour le diabète. Donc dans ces analogues, je vous ai dit des prises journalières telles que le Victoza, des prises hebdomadaires telles que le Trulicity et l'Ozempic. Et puis, la nouvelle catégorie de médicaments qui fait la une aujourd'hui et qui fait toute l'actualité de cette nouvelle année 2020 en plus des innovations technologiques, c'est ce qu'on a appelé les inhibiteurs des SGLT2, les gliflozines. Les gliflozines, c'est la dapagliflozine qui est arrivée au mois d'avril 2020 pendant le premier confinement, appelé encore Forxiga, et dans son association avec la metformine, on l'appelle le Ziduo. Et une nouvelle qui arrive aussi incessamment sur le marché, c'est l'empagliflozine, encore appelée Jardiance. C'est l'association, nous en tant que diabétologues, nous allons organiser l'association de toutes ces familles de médicaments en respectant le bon sens, pour que nous puissions conserver vos glycémies élevées. Et nous allons tenir compte de votre profil, des facteurs de comorbidité. Vous savez maintenant ce que c'est que les facteurs de comorbidité, l'obésité, l'hypertension, le taux de cholestérol qui est trop haut, la goutte, l'association avec ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire, donc le fait d'avoir de la rétinopathie qui prédispose à faire un événement cardiaque, d'avoir des atteintes rénales qui va prédisposer aussi à faire des événements cardiaques. Donc tout ceci, nous allons en tenir compte pour trouver la combinaison la plus juste et la mieux tolérée pour vous, avec le moins d'effets secondaires et le moins de problèmes associés pour que vous soyez le plus équilibré. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de moyens thérapeutiques, donc de médicaments, pour essayer de faire des combinaisons de plus en plus complexes et qui vont permettre de retarder au maximum le traitement chez le diabétique de type 2 par l'insuline. Mais tôt ou tard, cette insuline, elle va être de toute façon le sujet. Elle va être le sujet. Il faudra, à un moment donné, arriver à l'insuline parce que, même chez le diabétique de type 2, le diabète est une maladie évolutive dont on ne traite pas la cause, mais on traite la conséquence. Et la cause, elle continue à évoluer en sourdine. La destruction progressive du pancréas se fait vers, vulgairement, sa mort. Et quand le pancréas ne peut plus fabriquer qu'autour de 20, moins de 20% de ses capacités, on est obligé de venir avec de l'insuline parce qu'on ne peut pas vivre avec 20% des capacités de cet organe. Donc du coup, on ajoute de l'insuline. Et là, l'insuline aussi se met en stratégie. On va initier une injection d'insuline, puis deux, puis trois, puis plusieurs injections d'insuline. Et à ce moment-là, on peut utiliser soit les multi-injections par des stylos, soit l'innovation technologique avec les pompes à insuline. Donc on peut traiter un diabétique de type 2 aussi par pompe à insuline. Donc Anne nous demandait si c'était possible que la pompe 780G, qui aujourd'hui est celle qui fait chez nous ici l'objet d'une expérimentation dans la vraie vie chez des patients diabétiques de type 1 en boucle fermée, c'est-à-dire en vulgairement pancréas artificiel. Elle nous pose la question de savoir, est-ce que nous pouvons utiliser cette 780G chez le diabétique de type 2? Alors, je vais répondre à Anne en lui disant que déjà, les sociétés savantes sont en train d'utiliser ces dispositifs en pédiatrie, donc chez les enfants. On se pose déjà la question, dans ces sociétés savantes, de l'utilisation de ces dispositifs chez les femmes enceintes et éventuellement, un jour, probablement, chez le diabétique de type 2. Donc il faut garder espoir parce qu'effectivement, peut-être qu'un jour, on aura la possibilité de trouver les conditions de prise en charge du diabétique de type 2 par boucle fermée et les modalités de remboursement. Parce que tout est quand même problème de coût et il faut savoir ce qu'on est capable de payer et de supporter au long cours. Donc voilà, tous ces traitements vont être adaptés aux capacités physiques du patient, à ses capacités mentales, à ses capacités intellectuelles. Elles vont répondre à ses capacités financières, à son contexte environnemental. Son entourage, est-ce que cet entourage est présent ou le patient est isolé? L'entourage est-il capable de réagir ou bien il est inerte? Les aidants qui sont présents sont-ils impliqués ou sont-ils et peut-on s'appuyer sur eux ou pas? Qu'est-ce qu'on va répondre également au milieu dans lequel vit le patient? Est-ce que c'est un milieu social, on va dire, un milieu social paupérisé ou un milieu social suffisant pour que le patient puisse mieux s'épanouir dans sa maladie? Tous ces marqueurs-là sont à prendre en compte. On prend en compte aussi son milieu professionnel, son activité professionnelle, son contexte professionnel de manière élargie. On prend en compte son attachement culturel. Voilà, son attachement culturel, son environnement culturel. Toute culture n'accepte pas facilement des transformations, des modifications, mais voilà, il faut adapter les choses. Il faut également regarder s'il y a des possibilités d'accompagnement du patient par des professionnels de santé, de manière facile, facilement accessible ou pas. Donc, en établissant un contrat de confiance avec le patient, en évitant ce qu'on a appelé l'inertie thérapeutique, parce qu'il ne faut pas attendre pour attendre, ou attendre pour faire plaisir au patient, il faut savoir réagir au bon moment, parce que derrière, c'est l'histoire du diabète qui arrive avec son cortège de problèmes, mais il faut aussi être dans une alliance thérapeutique avec le patient. Voilà ce qu'il fallait dire, à mon sens, dans ce qu'est comment optimiser l'équilibre glycémique d'un patient diabétique. Il n'y a pas de formule unique, il n'y a pas une formule à respecter, il y a tout un contexte de réflexion, de discussion, d'alliance avec un certain nombre d'éléments, d'intervenants avec lesquels il faut discuter, les prendre en compte leurs remarques, rester dans l'humilité d'une maladie qui est chronique et pour laquelle nous n'avons encore jusqu'alors pas de solution définitive, mais nous avons déjà une nette amélioration de la prise en charge. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ça. Ensuite, Jean et Brigitte ont posé des questions qui avaient trait plutôt à le suivi du diabète, les complications, comment les éviter. Donc, le diabète s'associe toujours à des corollaires. Il est associé à ce que j'appelle moi ses cousins germains, c'est une famille. Et parmi ses cousins germains, on a l'obésité, hein, l'obésité qui est définie par un IMC au-delà de 30, le surpoids qui est un IMC entre 25 et 30, l'augmentation des triglycérides et du cholestérol, ce qu'on appelle les dyslipidémies, la goutte, le tabac, l'atteinte au niveau des yeux et des reins par le diabète, donc l'atteinte spécifique au niveau des yeux et des reins par le diabète, ce qu'on appelle la microangiopathie, l'atteinte des petits vaisseaux en lien direct avec le diabète, l'accumulation de graisse autour de foie, encore appelée la stéatose hépatique, l'apnée du sommeil et bien d'autres encore que j'oublie peut-être aujourd'hui, mais qui sont le lot d'éléments qui accompagnent le diabète et qui vont augmenter effectivement le risque de faire un événement cardiaque, comme une attaque cardiaque ou vasculaire comme un AVC ou de l'artérite. Pour éviter cela, il faut en plus de bien prendre en charge le diabète, il faut aussi contrôler ses facteurs de risque cardiovasculaire. Il faut se battre contre l'obésité, même si c'est difficile. Il faut tout faire pour essayer de trouver voies et moyens pour que le patient perde du poids. Il faut contrôler l'hypertension artérielle au mieux et avec des médicaments qui aujourd'hui sont reconnus comme étant des médicaments qui protègent le rein du diabétique. Donc, il faut, dans un objectif qui est maintenant fixé, que tout le monde connaît, hein, on sait que la tension artérielle du diabétique doit rester autour de 140-90, donc ce qu'on appelle 14-9, ce qu'on dit vulgairement 14-9, en dessous de 14-9. Il faut contrôler le mauvais cholestérol. Quand on n'a pas fait d'événement cardiaque, ce mauvais cholestérol qui est le LDL cholestérol doit être en dessous de 0,70 g. Et quand on a déjà fait un événement cardiaque, eh ben, il doit être en dessous de 0,55 g. Ce sont des nouvelles recommandations. Ensuite, il faut corriger l'alimentation pour que les triglycérides restent dans les fourchettes de normalité, autour d'un gramme 50. Il faut que le bon cholestérol aussi soit dans la fourchette du 0,40. Il faut traiter la goutte, il faut arrêter de fumer, il faut contrôler les yeux chez le diabétique qui a une atteinte de la rétine, donc par le suivi ophtalmologique, par des injections de produits spécifiques dans les yeux et par, effectivement, un traitement par la ou par laser. Il faut contrôler l'atteinte rénale, hein, il faut diminuer la charge de sel, pratiquer une activité physique régulière, consommer les protéines de manière régulière et utiliser encore, comme je l'ai dit tantôt, des médicaments définis comme des médicaments qui protègent le rein du diabétique. Il faut surveiller la stéatose hépatique et se battre contre le poids pour qu'elle puisse s'amenuiser et il faut prendre en charge l'apnée du sommeil. Voilà pour les questions inhérentes à la semaine et en lien avec notre sujet du jour qui était diabète de type 2, comment obtenir un bon équilibre glycémique en 2021. Voilà pour les questions qui nous ont été posées pendant la semaine et comme de coutume, l'exercice est de répondre aux questions posées d'office en live par les internautes qui nous suivent en ce moment. Je les salue et je remercie toutes ces personnes qui nous font confiance et qui restent nos fidèles interlocuteurs toutes les semaines. Alors, Nadia nous dit quelles sont les solutions chez le diabétique de type 2 en cas d'intolérance aux antidiabétiques oraux. Aux antidiabétiques oraux, c'est large. J'ose espérer, Nadia, que vous n'êtes pas intolérante à tous les antidiabétiques oraux. Imaginons que vous soyez intolérante à tous les antidiabétiques oraux, il nous reste la possibilité de vous traiter par insuline. Voilà ce que je peux vous dire, Nadia, mais c'est compliqué d'être intolérant à tous les antidiabétiques oraux. Il y a un antidiabétique oral pour lequel les nombres de diabétiques sont intolérants, deux catégories, la metformine et des fois ce qu'on appelle les analogues du GLP-1, hein, ces piqûres qu'on vous fait faire maintenant une fois par semaine. C'est vrai que de temps en temps, les patients sont intolérants à ces médicaments-là. Mais à tous les antidiabétiques oraux, ça, quand même, ça devient, c'est un peu fort de café. Mais je vous dis, Nadia, si jamais vous êtes intolérante aux antidiabétiques oraux, nous avons encore de l'insuline, Dieu merci, pour vous traiter. La vaccination Covid-19 permet-elle de diminuer les risques de complications chez le diabétique? Je ne vois pas trop comment. La Covid-19 est une affection virale qui peut venir déstabiliser, déséquilibrer le diabète. Être le sujet pour entraîner les problèmes inhérents au diabète, c'est un peu difficile. Non, je ne pense pas. Je peux peut-être m'avancer de manière trop rassurée, mais je vous dis, la Covid-19, à mon sens, n'est pas responsable des complications du diabète. Elle est peut-être responsable du déséquilibre glycémique sur le fait qu'on fait une affection intercurrente, on est déséquilibré, mais on trouvera toujours le moyen de vous équilibrer, de récupérer ces glycémies-là et de retourner à la normalité. C'est un facteur intercurrent comme, je ne sais pas moi, une carie dentaire, peut-être un facteur intercurrent, comme un ongle incarné, peut-être un facteur intercurrent. Voilà, j'espère que j'ai répondu à Nathalie. Est-ce que je peux garder mon plaisir sur le repas du dimanche, dessert, opéra, après qu'on m'ait dépisté un diabète de type 2, nous demande Thierry. Alors, si vous êtes bien équilibré, Thierry, moi, ça ne me gêne pas, à condition que cet opéra, hein, qui finalement vous fait plaisir, ne délète pas vos glycémies. Oui, vous y avez fort droit. On peut même, si vous avez une diététicienne, vous dire à quel moment le consommer. Mais n'en faites quand même pas un rituel, parce que ce sont les rituels qui emmènent aux dérives. Donc, de temps en temps, vous pouvez vous faire plaisir par cet opéra, mais moi, je ne vous conseillerais pas de le faire systématiquement tous les dimanches. Voilà. Mais je dis bien, si votre diabète est équilibré malgré que vous prenez votre opéra, je ne suis pas contre. Ensuite, fractionner les repas chez le diabétique permet-il de diminuer les pics de glycémie, nous demande Nadine. Fractionner les repas permet-il de diminuer les pics de glycémie? Tout dépend de ce que vous mettez dans votre repas. Hein. Tout est toujours sujet à interprétation. Si vous mettez tout ce qu'il ne faut pas dans votre repas, croyez-moi, les pics de vos glycémies resteront élevés. Si vous faites attention, pourquoi pas fractionner les repas, prendre votre petit déjeuner en deux temps, mais surtout utiliser les bons glucides dans votre petit déjeuner, les bons glucides dans votre repas de midi et les bons glucides au repas du soir. Donc, c'est surtout ça qui est important. Rapprochez-vous de votre diététicienne, elle vous donnera les conseils éclairés. Si vous voulez manger par fractionnement, elle vous donnera les bons conseils pour éviter que ce fractionnement ne vienne déléter les glycémies, vos glycémies, c'est-à-dire qu'elles ne viennent augmenter les glycémies et vous faire sortir de vos objectifs pour rester élevé. Voilà. Les cures thermales peuvent-elles aider l'éducation des patients diabétiques, nous demande Brigitte. Alors, je ne sais pas trop les cures thermales. Moi, j'en ai fait une. Je vais vous raconter ma petite histoire puisqu'on parle de cures thermales. J'en ai fait une. Et puis, effectivement, dans ces structures-là, ils proposent des cures diététiques, des activités physiques, de randonnée souvent, et puis des massages, des jets d'eau, tout plein de choses très très douces, hein, et qui font pas mal de bien. Oui, des fois ça aide à améliorer l'équilibre glycémique, parce que effectivement dans ces cures thermales, dans les cures thermales qui sont bien organisées, on a des diététiciennes, des cuisiniers spécialisés qui font des repas diététiques pour une catégorie spécifique de personnes qu'ils reçoivent dans les cures, parce que ce n'est pas des patients qui vont en cure, c'est des personnes qui vont essayer d'aller chercher un mieux-être. Donc cette médecine douce du mieux-être, du confort et du bien-être peut venir en adjuvant, améliorer l'équilibre psychologique et physique, oui, et tout ça peut faire un tout pour améliorer aussi la capacité à accepter son diabète, à mieux le prendre en charge. Peut-être que ce que nous disons à l'hôpital ou dans le cabinet d'un diabétologue peut être vécu un peu comme drastique vis-à-vis d'un patient, mais que quand c'est dit en cure thermale, parce que c'est fait dans un contexte très bien équipé, où tout est très bien présenté, ben les choses sont dites différemment et on accepte mieux le message, on adhère mieux au message qui nous est traduit à travers les méthodologies des cures thermales. Je pense que c'est un adjuvant, mais ça ne peut pas être ce sur quoi on va se baser pour dire « je vais en cure thermale et je vais être bien pris en charge pour mon diabète ». Non, je pense que ce n'est qu'un plus, la petite cerise sur le gâteau, mais ça ne peut pas être quelque chose de très très bien organisé qui puisse faire en sorte qu'on se dise à travers la cure thermale je vais équilibrer au mieux mon diabète, sauf si cette cure thermale est équipée de professionnels de santé compétents dans la prise en charge du diabète. Alors, peut-on avoir un poids normal IMC normal et développer un diabète, me demande Mohamed. Oui, oui, oui. Et ça, c'est un peu l'apanage de beaucoup du diabète dans les zones d'Afrique subsaharienne. C'est beaucoup de patients. Il y a ceux qui développent le diabète de l'obésité, ça, avec de l'obésité, ça, c'est inéluctable. Hein. Mais aussi, beaucoup de diabétiques à poids normaux qui se révèlent dans ce contexte-là. Oui, on peut avoir un diabète de type 2 à poids normal. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit particulièrement en Afrique subsaharienne de surcroît, ou en Afrique blanche, hein, au Maghreb. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans cette région. Alors, il y a peut-être un facteur déterminant qu'il faut trouver, mais effectivement, diabète de type 2 de l'Africain de manière générale, hein, le Maghrébin et l'Africain subsaharien, a un profil particulier. Donc, oui, Mohamed, il ne faut pas être étonné qu'on puisse développer un diabète de type 2, même si on a un poids normal. Voilà. Donc, il faut... Qu'est-ce que je peux vous dire encore de la possibilité? Alors, il faut savoir qu'on a maintenant aujourd'hui beaucoup de moyens pour bien prendre en charge le diabète, pour l'équilibrer de manière beaucoup plus efficace. Vous savez qu'il y a donc toute cette panoplie de traitements, et d'autres encore vont arriver sur le marché dans les mois, les années à venir, pour nous donner la possibilité, nous, professionnels de santé et diabétologues, d'user de stratagèmes et d'intelligence et d'ingéniosité pour pouvoir trouver les combinaisons les plus efficaces pour vous soigner de manière juste et efficace. Et puis, il y a les technologies innovantes, l'intelligence artificielle qui, ma foi, révolutionne notre pratique dans l'utilisation de la technologie en diabétologie. Et ça, pour nous, c'est un gain, un apport, une histoire nouvelle, une nouvelle manière fort probablement de voir arriver notre pratique, de changer nos habitudes, d'individualiser encore plus la prise en charge des patients, c'est-à-dire de cibler vraiment ce qui est au mieux pour cette personne, et ce ne sera pas la même chose pour le voisin d'à côté. Donc, que vous dire l'innovation technologique, la diabétologie évolue, se mue, se change, est en train de connaître des mutations très très importantes qui vont nous permettre dans l'avenir d'apporter des solutions beaucoup plus adaptées à la prise en charge des patients diabétiques depuis la petite enfance jusqu'à l'âge de la gériatrie, c'est-à-dire jusqu'à nos seniors. Vous savez que maintenant, il existe des diabéto-gériatres ou des diabétologues de la gérontologie qui, eux aussi, sont en train, dans des sociétés savantes, d'apprendre à organiser la prise en charge des patients diabétiques classés comme étant les patients de troisième âge, puisque dorénavant, nous avons une capacité de vie qui augmente, une espérance de vie qui s'allonge de plus en plus et en bonne santé. Donc, il faut tenir le pas et pouvoir apporter une offre de soins de plus en plus juste, précise et adaptée à chaque catégorie d'individus dans l'évolution de la vie. Voilà, donc nous remercions tous les internautes qui nous suivent en ce moment. J'espère que vous êtes plus ou moins satisfaits de cette méthodologie. Nous, on s'y adapte, ce n'est pas toujours facile, mais voilà, on vous apporte ce qu'on peut, quand on peut, comme on peut, en fonction des réflexions que vous nous livrez au fur et à mesure des sujets que nous vous proposons. Si éventuellement vous avez encore d'autres sujets à nous proposer, n'hésitez pas. Vous avez notre groupe Facebook pour lancer les suggestions, et nous retrouvons pour juger utile des questions que vous nous offrez. Nous vous remercions donc de nous suivre. Laissez-moi retrouver ma petite phrase. Donc, Nous vous remercions pour votre écoute. Nous vous disons à très bientôt, fort probablement à la semaine prochaine. Merci, au revoir.
Nous sommes ravis de vous avoir accompagné pendant toute cette écoute. Si ce podcast vous a plu, merci de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Suivez-nous sur notre page Facebook Diabète66 en posant directement vos questions qui seront abordées dans nos prochaines émissions. Rejoignez-nous également sur notre groupe Facebook Diabétique, le groupe de discussion, pour échanger avec nos 9000 membres. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter. Merci à toutes et tous pour votre écoute et à la semaine prochaine.